Vous faut autre chose, vous disposez d'environ une semaine.
Merci, dit Parrish. Il regarda une dernière fois à travers le hublot de la porte. Une si belle fille. Un gâchis si terrible et tragique. En s'éloignant de la morgue, Frank Parrish songea au docteur Mary Griffin. C'était un canon pour sûr. Une certaine dureté au niveau des yeux, peut-être, comme si elle avait vu ou entendu trop de choses bouleversantes. Psy auprès du département de police. Peut-être qu'il n'aurait pas dû être si dur avec elle. Toutes ces conneries de psychothérapeute. Il se comportait parfois comme un vrai con. Il le savait. Il se rappela l'ancien psy, un type nommé Harry quelque chose. Il avait posé la question qu'ils posent tous. « Que voyez-vous quand les lumières s'éteignent, Frank ?»«
La nuit. »«
Mais dans la nuit, qu'est-ce que vous voyez ?»«
Je vois votre femme, Harry, et elle a ma bite dans la bouche. »
Toujours les fanfaronnades, toujours le crochet qui manquait sa cible. La vérité, c'est que ces psys ne comprenaient rien. Bon Dieu, il ne comprenait rien lui-même. Parfois, il fallait une bouteille de Bushmills pour le mettre au lit. Honnêtement, qu'il fasse nuit ou jour, tout ce qu'il voyait, c'était les morts. Parfois les femmes. Et les adolescentes. Des filles comme Rebecca. Toutes parties, bousillées comme pas possible. C'était principalement les enfants. Pour les enfants, il n'y avait aucune raison, aucun mobile, aucune excuse. Et son père n'était jamais loin, enfoiré d'alcoolo qu'il était. Personne ne connaissait la vérité sur John Parrish. Ce qu'il avait fait, comment il l'avait fait, comment il avait recouvert toute cette saloperie d'un joli voile d'une blancheur virginale. Mort depuis 16 ans, et Frank Parrish ne pouvait toujours pas exorciser ce salopard. Il n'était pas devenu flic à cause de son père. Il était devenu flic malgré lui. Peut-être qu'il partagerait ce qu'il savait avec le docteur Marie, l'aéroport JFK, le rapport de la commission McClellan, la section 295 et les Teamsters, ce putain de Jimmy Hoffa et la commission d'enquête de l'État de New York, les Gambino, Lucchese, Cotti, le cas de la Lufthansa en 1978, l'enquête sur les raquettes à l'aéroport, Henry Davidoff, Frank Manzo et les capos de la famille Lucchese, Paul Vario. Tout était là. États-Unis contre la fraternité internationale des Teamsters, et l'inspecteur John Parrish était toujours de la partie. Avec ses citations pour bravoure et pour conduite exemplaire qui lui sortaient du cul par poignée. Enfoiré. Parrish sortit du métro à Hoyt Street et marcha jusqu'au commissariat. La brigade criminelle du 126e district était un environnement d'une brutalité extrême. Travailler ici, avait un jour dit quelqu'un, c'est comme regarder un accident de voiture au ralenti. Vous savez qu'il va se produire, mais vous ne pouvez pas l'empêcher. Et pas moyen de détourner le regard. C'est un tel lieu commun qu'il ne peut qu'être vrai. La vie d'un flic n'est pas un film. Le téléphone sonne, il y a un cadavre quelque part, vous attrapez vos clés de voiture, vous foncez sur les lieux. Vous arrivez, personne n'a rien vu, personne ne veut rien voir. Les voitures de patrouille ont délimité un périmètre, bouclé la scène. Le coroner adjoint est à la bourre. Vous poireautez un moment dans le froid glacial ou dans la chaleur accablante. Vous avez envie de pisser, mais vous êtes coincé là. Vous fumez cigarette sur cigarette. Finalement, vous cessez d'attendre et vous marchez jusqu'au cadavre avec une lampe torche et une paire de gants latex. Vous l'examinez de près. Vous voyez ce qui est évident. Vous cherchez ce qui ne l'est pas. Vous fouillez les poches du type ou le sac à main de la fille. Ou peut-être, s'il s'agit d'un travesti de downtown, le sac à main du type. Vous trouvez du chewing-gum, des clés, un téléphone portable, des billets, de la monnaie, des clopes, des capotes, des stylos, des tickets de métro, des tickets de bus, des emballages de bonbons, des bouts de papier avec des gribouilles illisibles, des reçus, des photos de gamins, des photos de mari, de femmes, d'amants, de petites amies, de parents et d'amis. On ne trouve qu'une quantité limitée de choses dans les poches des morts. Quand le coroner adjoint arrive, vous l'aidez à retourner le corps. Et vous relevez les signes évidents de blessures par balle, des coups de couteau, de chaîne, de tuyaux, de batte de baseball, de bottes, de poings. De temps en temps, quelque chose de mélodramatique, comme un pistolet à clous, un marteau à panne ronde, ou une grosse clé à molette, du genre de celles qui servent à visser les boulons sur les jambes de voiture. Puis vous passez les alentours au crible. Vous cherchez des boîtes de bière, des emballages, des douilles usagées, des éclaboussures de sang, des bouts de cervelle, des traces de pneus, le chemin par lequel les coupables ont pu s'enfuir, l'endroit où il y a pu y avoir des témoins, les impacts de balles perdus sur les murs de béton et les portes en bois. Vous prenez tout un tas de notes. Vous sentez une vague de découragement vous submerger tandis que vous ajoutez un nouveau nom à votre liste de morts. Sous l'égide directe du directeur du labo criminel, travaillent des superviseurs, des criminalistes, des analystes de scènes de crime, des spécialistes en armes à feu, des techniciens de l'identité judiciaire et des experts en empreintes latentes. Au bureau du coroner, on trouve des coroners adjoints, des pathologistes médico-légaux, des anthropologistes, des toxicologues, des superviseurs chargés de reproduire les tests et l'unité d'évaluation par les pairs. Le service des armes à feu peut à lui tout seul déterminer la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série, l'origine de l'arme, identifier les marques de crête et de rayures, les striations, le rainurage du canon, le type de munition, les marques du percuteur et du bloc de culasse, la distance de tir, la taille et la forme des particules de poudre autour des points d'entrée. Toutes ces choses. Des choses nécessaires, des choses importantes et futiles si on ne retrouve aucune arme, si on ne localise aucune balle. Futile si le cadavre a été réduit en bouillie par une cartouche de magnum à canoncier tiré à 1 mètre. Futile si les coupes budgétaires ne permettent pas de bosser convenablement. Ça n'était pas un film. C'était réel. Ici, le coupable s'en tirait. 9 fois sur 10, on ne savait même pas qui il était. Et quand on le savait, il était acquitté pour vice de procédure. On était toujours un jour à la bourre et à court de 1 dollar. Parrish n'était ni pessimiste ni cynique. Il était pragmatique, méthodique, réaliste. Il n'était pas désabusé. Il était fataliste et résigné. À la criminelle, on s'occupait des morts. Et la plupart du temps, justice ne leur était pas rendue. Pour le moment, son souci était Rebecca, la sœur de Danny Lange, et il se demandait pourquoi Danny avait été retrouvé mort dans une allée pendant que sa petite sœur gisait étranglée dans son trou à rats d'appartement. Il se rappela l'argent qu'il avait prélevé sur le cadavre de Danny et le déposa dans une boîte à cigares dans le tiroir inférieur de son bureau. Tout d'abord les parents. Ensuite, retrouver certains contacts de Danny, Lenny Hunter, Garth Marchintruc, l'autre avec la peau dégueulasse qui avait l'air d'avoir eu le visage passé à la râpe à fromage et recollé n'importe comment. Parrish décrocha son téléphone et composa des numéros qu'il connaissait par cœur. Un cœur de pierre. Un peu froid et implacable peut-être. Mais un cœur tout de même.
Chapitre 8. À 17h, le capitaine le convoqua dans son bureau. Jack Aversow était abominablement laid. Quelle était l'expression ? Moche comme un pou. À côté de Jack Aversow, les poux avaient une bonne tête.
« Asseyez-vous, » dit Aversow.
« Comment allez-vous ? »
« Ça va, » répondit Parrish. « Comment ça se passe avec la psy ? » ?»«
J'ai seulement commencé hier. Elle a l'air bien, agréable à l'œil. Je crois que j'arriverai à la tolérer quelque temps. »
« Vous n'avez pas le choix, inspecteur. C'est votre dernière chance. Vous ne pouvez pas savoir le temps qu'il m'a fallu pour convaincre Valderas de ne pas se débarrasser de vous. Après quoi, Valderas a dû convaincre le lieutenant Meyerson. J'ai fini par invoquer le rang. Mais assez parlé. Écoutez-moi bien, Frank. Je vous veux ici. J'ai besoin de vous ici. Je peux me passer de votre cinéma à la con. »
Parrish ne répondit rien. Aversow et lui se connaissaient depuis de trop nombreuses années pour s'adonner aux préliminaires.
« Alors, qu'est-ce que vous avez en cours ?»«
5 affaires. Les 2 dernières sont le meurtre de Danny Lange et de sa sœur, qui s'est fait étrangler dans son appartement. »«
Et à part ça ?»«
La prostituée de mardi dernier, le jeune noir de Tech College et le type du musée des transports qui a été poussé sous le métro. »«
Exact, exact. Je l'avais oublié, celui-là. Comment ça avance ?»«
La routine. Les meurtres du frère et de la sœur Lange m'intéressent. » Aversow sourit.
« Pas de problème, Frank. Oubliez les affaires emmerdantes et occupez-vous de celles qui vous font bander. »«
Ah, vous savez ce que je veux dire. » Aversow se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il demeura quelques instants silencieux, puis se retourna, enfonça les mains dans ses poches et s'adossa au rebord de la fenêtre.
« Je vous ai trouvé un équipier, »